Salut à tous et bienvenue sur Archéociné, Archéociné, le podcast qui détaille les pépites du grand écran. Tous les blockbusters des années, on va dire, 60 jusqu'à 90. Bonsoir à tous, avec nous il y a Blood. Salut Blood.
Salut Bruce, salut à tous.
Et aujourd'hui, on va faire un petit peu l'effrayant et l'angoissant. Allez, je lance l'intro du film, mais elle est hyper, à longue à venir.
Ça va faire peur.
Et voilà, ce film, l'introduction est hyper longue à venir. Ce film, c'est Alien, pour ceux qui l'auraient peut-être reconnu. Et moi, je dois dire que Alien, à chaque fois que je le regarde, eh ben, j'ai pas les chocottes, mais je suis pas bien. Parce que le film, c'est dès le départ et tout, avec la musique d'ambiance, etc., c'est angoissant, on va dire.
Ah bah voilà. T'es tout de suite dans l'ambiance dans le film.
Bah ouais. Hein. Donc Alien, le huitième passager, un sous-titre en français, c'est un film d'horreur et de science-fiction américain réalisé par Ridley Scott en 79. Et on le verra après à la fin de cet épisode, ça fait partie maintenant d'une saga, la saga Alien, qui comporte pas mal de films. Et donc ça c'est l'opus initial. Donc, avant d'aborder l'équipe technique que je te laisserai, Blood, on va faire un petit peu l'intrigue pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Hein, en fait, c'est durant le voyage retour du cargo spatial qui s'appelle Nostromo, hein, après une mission commerciale de routine, et l'équipage qui est composé de 5 hommes et de femmes qui sont plongés en hibernation depuis 10 mois, ils sont tirés de leur état de stase par l'ordinateur de bord, qui est même un ordinateur d'intelligence artificielle, ouais, qui s'appelle Maman, hein, Mother en VO. Et donc du coup, parce que l'IA a capté un signal de détresse et il faut aller voir ce qui se passe. Et donc l'équipage va voir. Et puis c'est là qu'il leur arrive des bricoles. Hein, la curiosité est un mauvais défaut. Est un vilain défaut, pardon. Et ce film, ça se passe en huis clos, hein, dans le vaisseau. Et parce que c'est en huis clos, c'est hyper angoissant, avec la musique, etc., la façon de filmer, l'ambiance, c'est oppressant, angoissant, et puis surtout qu'il y a l'alien qui rôde, etc., donc...
Voilà. Ah, fallait pas le dire.
Donc, après, la fiche technique, Blood...
Alors, donc, titre original, donc Alien, comme tu l'as dit, hein, Alien le huitième passager. Donc, le scénario est de Dan O'Bannon et Walter Hill, et Ronald Chaussette aussi. Donc, au costume, nous avons John Mollo. La photographie, donc ça je le dis, vu que tu aimes bien quand on dit à la photographie, Derek Van Litt. Au son, Jim Shields et Derek Leaser. Au montage, Terry Rowling et David Crozer pour la version Director's Cut. Et à la musique, bien sûr, Jerry Goldsmith.
Est un sacré accent parce que c'était la version Director's Cut. Ouais, je sais pas, t'as dit cute. C'est pas grave. Ouais, et puis pour finir, on est à un budget de prod sur à peu près 10 millions 7. Le film dure 1h57 dans sa sortie cinéma. Dans la version Director's Cut de 2003, il dure 1h54. Voilà, il est sorti en 79. Allez, on va s'écouter par un petit extrait pour commencer.
Alors, qu'est-ce qui se passe encore?
Bien. Je pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. On est juste à mi-chemin.
Quoi?
Maman a interrompu le cours de notre voyage.
Pourquoi?
Elle est programmée pour le faire dans certaines conditions exceptionnelles, c'est ce qui s'est passé.
Quoi, par exemple?
Il me semble qu'elle ait intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie.
Une émission extérieure?
Ouais.
Mais quel genre d'émission?
C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes.
Un SOS?
J'en sais rien.
Humain?
Inconnu.
Bon, et alors?
Bon, et alors? Nous sommes obligés par le paragraphe
P2. Non, mais je sais pas si vous savez, mais c'est un engin commercial, c'est pas un vaisseau de sauvetage.
C'est vrai.
Et c'est pas dans mon contrat de faire ce genre de boulot. Si on parlait un peu de pognon, hein, si vous êtes disposé à me payer, moi je demande pas mieux que de vous rendre service.
Voilà, 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 voilà tout le début dont je disais tout à l'heure précédemment dans le petit sino, le début du SOS. Alors sinon, le film a été réalisé par Ridley Scott. Hein, on va voir rapidement un petit peu, on va dépoussiérer qui est Ridley Scott. Et c'est Sir Ridley Scott. Hein, il est né en 1937. C'est donc un réalisateur et producteur britannique. Il réside aux États-Unis. Il va avoir 83 ans donc. Il est révélé à la fin des années 70 et durant les années 80 par trois blockbusters qu'il a réalisés. Donc il y a donc Alien hein, en 79, Blade Runner en 82 et Légende en 85. Il faut avoir absolument voir ce film, film de fantasy avec Tom Cruise.
Jamais vu.
Et ah là là. Et puis il enchaîne ensuite avec les grosses prods. Il a fait Hannibal en 2001, La Chute du Faucon Noir en 2002, Kingdom of Heaven en 2005. Et il a alterné également avec les films plus modestes, hein, Les Associés en 2003 et Une Grande Année en 2006. Durant les années 2010, il revient avec succès à la science-fiction. Parce que c'est lui aussi qui a fait après Prometheus en 2012, hein, le préquel d'Alien, Seul sur Mars en 2015 et Alien Covenant en 2017 qui fait partie aussi du préquel d'Alien. Et Scott est reconnu par son style visuel très concentré et atmosphérique qui a inspiré un grand nombre de réalisateurs. Ensuite, tiens, je te laisse poursuivre avec Dan O'Bannon.
Dan O'Bannon, son nom complet donc c'est Daniel Thomas O'Bannon. C'est un scénariste et réalisateur américain. Il est né en 46 et il est décédé en 2009 d'une maladie de Crohn, donc à 63 ans. Son œuvre est essentiellement liée à la science-fiction et films d'horreur. Il a commencé à être connu du grand public en 79, donc avec Alien, donc de Ridley Scott. La carrière de Dan O'Bannon débute quelques années auparavant alors qu'il travaille sur le premier film de John Carpenter, Dark Star, une comédie de science-fiction au budget dérisoire, pour laquelle O'Bannon est co-scénariste, donc avec Carpenter, décorateur, acteur, monteur et dont il planifie les effets spéciaux. À la suite du succès du film de Ridley Scott, O'Bannon scénarise le drame fantastique Réincarnation, une fois encore avec Ronald Suchette. Il participe également au scénario de suspense Tonnerre de Feu et du film d'animation Métal Hurlant. En 85, O'Bannon fait ses débuts à la réalisation avec Le Retour des Morts Vivants. L'œuvre qui fusionne horreur et humour noir connaît un accueil favorable. 6 ans plus tard, il tourne son second et dernier film, The Resurrected, inspiré du roman L'affaire Charles Dexter Ward de Howard Phillips Lovecraft. Malheureusement, le film ne connaît aucun succès. Il est également le scénariste de Total Recall de Paul Verhoeven en 90.
Ouais, donc t'as parlé tout à l'heure de Tonnerre de Feu. Tonnerre de Feu, film avec Roy Scheider. Et puis Metal Hurlant, c'est Heavy Metal, un film d'animation vraiment génial. qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et bah sinon après, allez, je poursuis avec Walter Hill. Walter Hill, lui, c'est un producteur, réalisateur, scénariste américain. Il est né en 42, il a donc 78 ans. Il est connu pour ses films d'action aux allures de western. Il commence sa carrière, lui, en 67, en tant que réalisateur de seconde équipe sur deux films mettant en vedette Steve McQueen, donc qui est l'affaire Thomas Crown de Normand Jewison, et Bullitt, réalisé par Peter Yates. Et donc, il passe à la mise en scène en 75 avec le bagarreur. Le bagarreur...
Charles Bronson.
Charles Bronson, ouais, qui se déroule pendant la Grande Dépression. Et ça le met au sommet donc de la popularité, hein, ce film-là, qui est produit même par Lawrence Gordon, avec qui bah, il travaillera régulièrement. Et puis, il écrit et dirige Driver. Un Driver dont il y a eu aussi un remake il n'y a pas longtemps. En 83, donc il obtient en tant que réalisateur un succès impressionnant avec 48 heures. Hein, 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Il est également le réalisateur de Double Détente en 98, avec Danny DeVito de mémoire et puis Arnold Schwarzenegger. Les Contes de la Crypte en 89 et Johnny Mangles en 89 aussi, avec Johnny Mangles, j'ai un trou de mémoire. Ah, il est dans les Expendables maintenant, il sait tellement leur refaire la
tronche. Oh oui, il est dans Sin City aussi.
Ouais, c'est ça. Mickey Rourke.
Voilà.
Ouais.
Mickey Rourke.
Et puis bah pour finir hein, aussi comme scénariste de la il est le scénariste de la saga Alien. Alors pour les Aliens 1, 2 et 3. Alors le 2 c'est Aliens le retour hein. Le 3 c'est le producteur de Alien 1, 2, 3, 4 et de Alien vs Predator 1 et 2, de Prometheus et de Covenant. Alors bon, je pense que il est bien ancré dans tout ce qui est l'univers Alien, quoi. Que ce soit scénariste ou producteur. Et puis ensuite, on a Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith sur la musique. Vas-y, Blood.
Donc, on m'a déjà présenté sur d'autres films auparavant.
Ouais.
Jerry Goldsmith, donc, qui est né en 29, il est mort en juillet 2004. C'est un compositeur américain essentiellement connu pour ses musiques de films. C'est ce qui est logique, finalement. Ou bien les musiques de films comme La Planète des Singes. D'ailleurs, c'était sur ce film-là, si je me trompe pas, la ouais, première fois qu'on avait parlé de Jerry Goldsmith. Patoon, Papillon, La Malédiction, Star Trek, le film, Les Rambo, puis bien plein d'autres trucs.
Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, il a fait une musique assez, je dirais, assez angoissante. Et puis, il a utilisé pas mal de petits bruitages, etc. Et moi, enfin, franchement, quand tu coupes le son, ben, en général, les films qui font flipper, quand on coupe le son, ça va mieux. Mais je sais pas pour toi, mais moi, enfin l'ambiance et tout, enfin je suis pas bien pendant tout le film quoi, à tous les coups. Enfin bref, bon. Et puis bah sinon pour la distrib maintenant, on va passer à la distrib. Qui est-ce qu'il y a dans ce film? Eh ben on a Tom Kerritt, hein, qui est le capitaine du vaisseau Nostromo. Qui joue le rôle de Arthur Koblenz Dallas. Dans le film d'ailleurs, on l'appelle que Dallas, il me semble.
Ah, je crois bien.
Ouais. On a Sigourney Weaver, donc qui est le lieutenant Hélène Louise Ripley. On a Veronica Cartwright, qui est la navigatrice Joanne Marie Lambert. On a Harry Dean Stanton, le technicien Samuel Elias Brett. On a John Hurt, qui est l'officier en second Gilbert Ward, Thomas Kane. On a Ian Holm, qui est l'officier scientifique Ash. On a Yaphet Kotto, qui est le chef technicien Dennis Monroe Parker. On a Bolaji Badejo, qui est l'alien. C'est lui qui est...
Donc c'est sa vraie tête alors.
Ouais, c'est le vrai acteur. C'était pas des images de synthèse, hein, c'est un costume. Et pour la voix, on a pour la voix de maman, l'ordinateur de bord, on a Hélène Horton en VO et Perrette Pradier en VF. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, je le dis maintenant parce que enfin je l'avais pas mis dans mes notes, c'est que en fait en VO, eh ben quand ils sont dans le sas là où il y a l'ordinateur central, il y a pas de dialogue en fait. C'est les humains ils tapent au clavier. Il
Oui.
n'y a pas de voix off qui dit ce qui a été écrit et l'ordinateur, il écrit simplement. Il n'y a pas une voix un peu bizarre qui fait c'est parce que machin, tu vois. Ça dit rien. Mais pour la VF, du coup, comme c'est écrit en anglais, malgré que ça soit je crois traduit en VF, eh ben il y a quand même une voix, une espèce synthétique qui dit comme si c'était une voix féminine, comme si c'était la voix de maman, quoi. Alors que si tu le regardes en VO, il n'y a pas du tout ça. Bon, c'était juste pour le petit truc au niveau de la voix de l'ordinateur de bord. Et puis bah écoute, on va s'écouter un deuxième petit extrait maintenant, allez. Après on verra un peu plus en détail tous les personnages.
Les pharaons. Une forme vivante étrangère. Elle a l'air d'être morte depuis longtemps. Fossilisée. Comme si elle faisait partie de ce siège. Les os sont éclatés, comme si ça avait explosé de l'intérieur.
Je me demande où est le reste de l'équipage.
Et ouais, donc là, ils sont rentrés dans le vaisseau, et ils commencent à découvrir un peu les entrailles du vaisseau et ses restes, on va dire.
Et c'est pas un petit truc en plus, hein.
Ouais, c'est gigantesque. Bah, c'est ce qu'on appelle le Space Jockey. Space Jockey. Ma langue a fourchu. Et ouais, non, c'est un truc, ouais, c'est un. Comparé à nous, c'est un géant, quoi. Et c'est vrai qu'on voit que ça fait super longtemps qu'il est là, quoi. Allez, on attaque avec Tom Serritt. C'est un acteur et un réalisateur américain. Il est né en 33, hein, donc c'est celui qui fait le rôle de Dallas. Bah, il a débuté sa carrière en 62 avec le film La guerre est aussi une chasse de Dennis Sanders. Il totalise à peu près 75 films et séries en 55 ans de carrière. Et il a également joué dans Top Gun où il incarne le personnage de Mike Metcalf avec l'indicatif Viper. Et on le retrouve également dans Lucky, MASH, Contact, The Dead Zone. Voilà. Allez, vas-y. Sigourney Weaver, je te la laisse. Vas-y, présente-nous un petit
Alors,
peu.
Sigourney Weaver, donc, est née Susan Alexandra Weaver en 49, donc, est une actrice américaine. Elle commence sa carrière en 77 avec Annie Hall de Woody Allen. En 84, elle incarne Dana Barrett dans SOS Fantôme de Ivan Reitman. Puis Alien le Retour en 86 de James Cameron, le biopic de Jane Fossey en 88 avec Gorille dans la brume de Michael Apted, puis de nouveau Dana Barrett dans SOS Fantôme 2 en 89 du même réalisateur. Dans les années 90, on endosse de nouveau le rôle de Ripley dans Alien 3 en 92 de David Fincher et Alien la Résurrection en 97 de Jean-Pierre Jeunet. Durant les années 2000, elle se retrouve sous les projecteurs avec Avatar en 2009 de James Cameron. Elle a également joué dans le remake raté de SOS Fantôme en 2016, où elle joue le rôle de Rebecca Gorin, sûrement Rebecca Gorin, mais bon, bref.
Je
Mais
pense.
prévue de renouer avec Dana Barrett dans SOS Fantôme, l'héritage prévu pour 2020, ainsi qu'un Avatar 2 en 2021.
Allez, Veronica Cartwright maintenant, elle qui joue donc Lambert, hein, la navigatrice. Elle est née en 49, c'est une actrice américaine d'origine britannique. On la retrouve dans Le Temps de la peur, son premier film de Philippe Dune en 58. Elle a joué aussi dans Les Oiseaux, le film d'Hitchcock en 63. Et elle est surtout connue pour ses rôles dans les films de science-fiction des années 70. Hein. Bon, elle a fait plein de trucs et elle a joué dans Invasion of the Body Snatchers dans les années 70. Et puis dans les années 80, elle est apparue dans The Right Stuff et Les Sorcières d'Eastwick.
Délire d'ailleurs dans Les Sorcières d'Eastwick.
Ouais.
Cerise.
Allez, je te laisse Harry Dean Stanton.
Alors lui, donc, il est né en 26 et il est mort en 2017, donc à 91 ans. Il apparaît pour la première fois dans la série télé Inner Sanctum en 54 et fait ses débuts au cinéma 3 ans plus tard dans le western Tomahawk Trail. Il prend le nom de Dean Stanton pour éviter d'être confondu avec l'acteur Harry Stanton. Stanton a joué dans des films indépendants comme Macadam à deux voix, Cockfighter, New York 1997, La mort en prime et des films grand public comme Luc la main froide, Le parrain 2, Alien. Ben justement, on parle d'Alien, donc. Red Dawn, Alpha Dog, Rose Bonbon, Christine et La Ligne Verte. Sa carrière prend un tournant en 84 lorsque le scénariste Sam Shepard le propose et qu'il est choisi par Wynn Wenders pour un des rôles principaux dans Paris, Texas.
Ouais, pareil,
Texas. Sublime Texas, ouais. Musique, Paris, Texas. Ouais.
Mais bon, je m'étais un petit peu ennuyé quand même devant ce film-là.
Idem.
Bon allez, après on a John Hurt hein, qui joue l'officier en second Thomas. Lui, bah c'est Sir John Hurt. Hein, c'est un acteur britannique né en 40. Il est mort en 2017 à l'âge de 77 ans. Bah et lui au début, il était un petit peu cantonné en début de carrière. Il était cantonné au second rôle. Hein, il a joué le rôle de Max dans Midnight Express. Ou le rôle de Kane dans Alien. Mais après il a accédé à la célébrité vraiment plus tard hein, quand il a incarné John Merrick dans le film Elephant Man, qui d'ailleurs ça lui a valu un Oscar pour le meilleur acteur en 81 et un BAFTA aussi pour meilleur acteur dans un rôle principal. Et il a incarné aussi notamment Billy Irvine dans La Porte du Paradis hein, de Winston Smith en 84. Et il a fait aussi le dictateur Adam Sutter dans V pour Vendetta. Et Monsieur Ollivander dans Harry Potter et l'école des sorciers. Et il a repris même ce rôle-là aussi en 2010 dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Voilà, donc on peut le retrouver.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on le revoit aussi, il rejoue Kane dans La Folle Histoire de l'Espace.
Ah, je me souvenais plus de ça. Ah oui, oui, exact.
Ouais. Oui, c'est lui que... Ouais. Oh non, ça recommence.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que c'est lui qui a l'alien qui sort du bide, en fait.
Ouais.
Allez, Yann Holm, je te laisse le faire.
Sir Yann Holm Cubbert, dit Yann Holm, est un acteur britannique né en 31, donc il a 88 ans. Il est connu entre autres pour son rôle de Bilbon Sacquet dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il fait ses premiers pas devant la caméra en 66 dans la série télévisée donc The Body Snatchers. Il passe au cinéma en 68 avec L'Homme de Kiev de John Frankenheimer. Lui, il produit beaucoup de films. Avant de jouer dans Adieu, que la guerre est jolie de Richard Attenborough, Yann Holm apparaît dans une dizaine de films dans les années 70, dont Les Griffes du Lion en 72. Les Griffes du Lion, c'est... Ah non, je confondais avec Le Lion sort ses griffes avec Burt Reynolds. De Richard Attenborough, Terreur sur le Britannique en 74 de Richard Lester et Alien le 8e passager en 79 où il campe Ash, l'angoissant androïde. Ah, mais fallait pas le dire que c'est un androïde.
Ah ouais, mince.
D'ailleurs, quand il lui pète la tête, ça fait un peu crade.
Ouais, ouais.
Fallait pas le dire non plus, ça.
Vas-y.
Mais c'est en 81 qu'arrive la consécration dans les chariots de feu de Hugh Judson. Ian Holm incarne Sam Musabili, l'entraîneur de deux coureurs de fond anglais en lice pour les Jeux Olympiques de 24. 1924, hein, bien sûr, pas 2024, puisque comme on est en 2020, on pourrait croire que ça va être là, mais ça n'irait pas. Fidèle à Terry Gilliam, dans Bandit et Brasil, il retrouve Hugh Hudson en 84 pour Greystock, la légende de Tarzan. Les rôles marquants et collaborations avec les plus grands metteurs en scène se succèdent, Henry V en 89 et Frankenstein en 94, de Kenneth Branagh, Kafka en 91, de Steven Soderbergh, Le Festin Nu en 91, de David Cronenberg, de Beau Lendemain en 97, d'Atom Egoyan ou encore Esther Kahn en 2000, d'Arnaud Desplechin. En 2012, il reprend son rôle de Bilbon Sacquet, âgé, dans Le Hobbit de Peter Jackson.
Ouais, parce que là, il...
Donc un vieux Bilbon.
Ouais, parce qu'il raconte en fait ça se passe après le Seigneur des Anneaux, après le dernier, le retour du roi, et en fait il raconte sa jeunesse, donc ils l'ont un peu grimé pour le faire plus vieux, quoi, pour exagérer un peu la vieillesse. Mais sinon, ouais, comme t'as dit, hein, que c'était le... Et c'est vrai que comme t'as dit qu'il était un androïde, dès le début il fait un peu chelou, hein. Même à un moment donné, tu vois qu'il regarde un peu un truc au scanner, tu vois, comme une espèce d'embryon. Et il y a Ripley qui se pointe et elle lui dit des nouvelles, qu'est-ce que c'est? Il fait oh, rien, rien. Parce que lui, il est au courant de certains trucs, mais il dit rien en fait. Allez, juste après, pour finir avec les deux derniers, on a Yaphet Kotto. Et il est né en 39, hein, c'est un acteur américain. Lui, il est connu surtout pour son rôle dans Alien, hein. Et aussi celui du méchant dans Vivre et laisser mourir, hein, le James Bond. Et il interprète souvent des seconds rôles dans les films d'action des années 80 et 90. Il a également joué dans la série Homicide. Voilà. Et puis l'acteur qui fait qui endosse le costume d'Alien, hein, Bolaji Badejo, lui il est né en 53, il est mort en 92, hein, à 39 ans. C'est un acteur nigérian dont l'unique rôle, ça a été celui de faire la créature extraterrestre alien. Voilà. Allez, on va s'écouter un petit extrait après avoir fini avec les acteurs.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu. Ça alors. C'est quoi ce truc-là?
Comment est-ce qu'il fait pour respirer?
Je crois qu'il a encore envie.
Et pourquoi est-ce que vous le mettez pas en hibernation? Pourquoi ils le mettent pas en hibernation? Mais qu'est-ce qu'ils foutent?
Hey, oh, qu'est-ce que vous foutez là? Salope!
Arrête, arrête, ça va pas! Hey,
calme-toi!
Vous aurez mieux fait de pas y aller!
Oh, du calme!
C'est comme ça. Je donne un ordre, j'entends qu'il soit exécuté.
Même s'il va à l'encontre du règlement?
T'as tout deviné, oui.
Ouais, moi je crois qu'elle a pas tout à fait tort. Personne ne sait ce que
comment
c'est.
Comment va-t-on lui retirer ça? Comment va-t-on lui retirer?
Une minute, je crois que j'ai ce qu'il faut.
Bon. Je vais faire une incision ici.
Essayer d'enlever une des tentacules de son cou.
Tu vas faire quoi?
La tentacule. Je vais essayer de l'enlever de son cou. Minute, cette patte-là. Oh.
Non. Non, ça va lui arracher la peau, oui, je sais.
Ouais, donc là, les problèmes, là, ils s'endurcissent, si on peut dire. C'est là où la bestiole, hein, qu'il a sur le visage, avec la queue qui passe autour du cou, ça, c'est le facehanger. Et après, qui pond sa larve à l'intérieur du ventre, qui donne naissance à l'alien. Qui sort en défonçant forcément la cage thoracique, quoi.
Fallait pas le laisser entrer, fallait, hein.
Fallait pas!
Fallait qu'il reste.
sinon, après, on a une grosse genèse, hein. Et encore, il y a des trucs dans mes recherches que j'ai pas tout mis, hein. J'ai fait un petit condensé par rapport à la genèse d'Alien. Parce que en fait, bah tout est parti de du co-scénariste Dan O'Bannon, hein, lui qui a à la fois il étudiait le cinéma à l'université de Californie du Sud et il a co-scénarisé un film de science-fiction comique de fin d'études appelé Dark Star avec l'aide de son ami John Carpenter. Tiens, c'est bizarre. Et qui était également réalisateur de ce film-là, hein, Dark Star. Et il y avait aussi Ron Cobb, hein, qui était le concepteur artistique. Et bah, le film, ça met notamment en scène, dans son récit, un alien de compagnie. Donc on est très loin de l'alien tueur qu'on a dans la série qu'on connaît, autour de quatre membres d'équipage. Et puis bah cette expérience laisse envie à O'Bannon de créer un alien qui fasse vrai. Bon. Et plusieurs années après, il décide de commencer à travailler sur une histoire davantage tournée vers l'horreur, et très similaire avec le scénario de Dark Star par contre. Et donc, O'Bannon, il a même déclaré « Je savais que je voulais faire un film d'horreur sur un vaisseau spatial avec un petit nombre d'astronautes. » Voilà. Donc pour ensuite définir Dark Star comme un film d'horreur et non de comédie. Et bah donc du coup, par la suite, O'Bannon, il a écrit 29 pages du script nommé Memory, au début. Et script qui contient ce qui deviendra bah, les images d'ouverture d'Alien. C'est-à-dire derrière, on a... l'intrigue qui tourne autour d'un équipage à bord d'un vaisseau spatial qui sort de son hypersommeil lorsqu'il reçoit une mystérieuse transmission. Et donc le vaisseau finit par se poser sur une planète, il tombe en panne à la surface de la planète, et puis après bah, l'équipage récupère l'alien à bord du vaisseau. Et puis, bah, il avait pas encore une idée claire de ce que serait, enfin, que ce serait l'alien, l'antagoniste du film, de l'histoire. Et puis, bah, après, l'écriture du script, et il le termine 3 mois plus tard, et alors que le titre du projet passe de Memory à Star Beast, mais O'Bannon, lui, il apprécie pas ce changement, et préfère le renommer. Et donc, du coup, le projet s'intitule désormais Alien. Et puis, bah, l'intrigue mise en place dans la moitié de son intégralité, bah, O'Bannon et Sunset présentent leur script à plusieurs studios, et ils le décrivent, pour réussir à le vendre, comme les dents de la mer dans l'espace. Voilà, pour la petite genèse du film. Je te laisse raconter les petites anecdotes à propos du tournage.
Alors, le tournage d'Alien donc se déroule sur une période de 14 semaines, donc entre le 5 juillet et le 21 octobre 78. La plupart des scènes sont tournées au studio de Shepperton, donc c'est pas très loin de Lyon, de Londres. Les scènes avec des miniatures, notamment le vaisseau spatial, ont été réalisées au Bray Studio à Windsor. Le calendrier de production est relativement court en raison du faible budget du film et de la pression de la 21st Century Fox pour terminer le projet à temps. Une équipe de plus de 200 artisans et techniciens est nécessaire à la construction de 3 plateaux de tournage principaux, la surface du planétoïde extraterrestre et les intérieurs du Nostromo et du vaisseau spatial abandonné. Donc le vaisseau spatial de D, ça c'est le gros où il y a
ouais,
le...
C'est ça au début.
Tout d'abord, Ridley Scott donc envisage de filmer la surface de la planète en extérieur. Sa première idée est de tourner ses scènes en Turquie, car ce pays regorge d'habitations en forme de pyramides, des structures colossales sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Mais en raison du budget, les scènes sont tournées en studio. Des tonnes de sable, de plâtre, de fibres de verre, de roches et de gravier ont été rapatriées dans le studio pour sculpter un paysage désertique pour la surface du planétoïde où les acteurs marchent avec leurs costumes de combinaison spatiale pour les besoins de certaines scènes. Les combinaisons sont épaisses, encombrantes et doublées de nylon. Elles n'ont pas de système de refroidissement et au début, pas d'évacuation pour le CO2. Combiné à une vague de chaleur, ces conditions ont failli s'évanouir, faire s'évanouir les acteurs. Des infirmières étant sur place avaient des réservoirs d'oxygène au cas où. Pour les scènes montrant l'extérieur du Nostromo, un train d'atterrissage de 18 mètres est construit pour donner une idée de la taille du vaisseau, mais Ridley Scott n'est pas convaincu par la taille du navire. Il a alors l'idée de faire appel à ses deux fils et fils de Derek Van Leet, le directeur de la photographie du film, pour remplacer les acteurs réguliers. Les enfants étant logiquement beaucoup plus petits que les acteurs, ils s'habillent avec des tenues combinaisons d'astronautes pour tourner les scènes à leur place et donner l'impression que le décor est beaucoup plus grand que le sont réellement. La même technique est utilisée lorsque les personnages rencontrent le Space Jockey, dans le vaisseau spatial abandonné. Les enfants se sont presque effondrés à cause de la chaleur, des combinaisons et des systèmes d'oxygène sont finalement ajoutés pour aider les acteurs à respirer.
Ouais, donc ils ont failli quand même presque tomber dans les pommes, hein, cette histoire de combinaison là. Ils n'avaient pas vraiment pensé à tout, quoi. Et puis dans le film on s'en rend pas compte, mais il y a 4 chats identiques qui ont été utilisés pour Jones, hein, le chat de Ripley. Et la toute première fois que Sigourney Weaver a tourné aux côtés du chat, elle est prise de réactions physiques désagréables, puis ça, elle a la peau qui la démange, elle est même victime d'éruptions cutanées. Et du coup, elle a cru qu'elle était allergique au chat. Eh ben non, en fait, son allergie elle venait du fait que c'était la glycérine qui était placée sur la peau des acteurs pour faire comme s'ils transpiraient. Eh ben c'est à ça qu'elle était allergique. Et une fois que en fait ils ont retiré la glycérine de la peau Sigourney Weaver, elle a pu reprendre le tournage avec les chats. Et puis petite anecdote aussi au niveau des costumes d'aliens, hein, en fait il y en a eu 3 qui ont été utilisés pour le film. Il y en a un qui a servi de modèle et les deux autres qui étaient des costumes. Il y en a eu un pour le cascadeur et l'autre pour l'acteur. Et on a aussi une scène d'impro. Même des scènes d'impro, hein, parce que la plupart des dialogues du film n'ont pas été écrits. Et oui. Et la plupart des acteurs ont énormément eu recours à leur talent d'improvisation, et ils connaissaient juste par avance les grandes lignes d'une scène, mais après, comme il a joué aux communautés, ça a donné de la spontanéité, et puis ça a donné le film qu'on connaît. Donc c'est génial. Moi je trouve que les acteurs comme ça, sans avoir à apprendre de texte, savoir juste ce qui se passe, etc., ce qui te permet d'improviser, je dis que c'est top. Et puis au niveau de l'autopsie aussi, quand le facehugger là, il est crevé et qu'il le retrouve mort, etc., qu'ils font l'autopsie, ils ont pris plein de fruits de mer. Et puis ils ont blindé de fruits de mer là-dedans, puis c'est vrai que ça ressemble à
un truc que ça fait un peu fruits de mer.
Ouais. Allez, on s'écoute un petit extrait.
Je sais pas si c'était lui, mais c'était un monstre énorme.
Vous êtes sûr qu'il l'a emmené dans la gaine d'aération?
Il a disparu dans une des bouches d'aération.
Ça c'est certain. Il utilise les conduits d'air pour se déplacer.
Il le voulait peut-être vivant.
Quoi?
Tu crois que Brett est vivant?
Non. Enfin, je veux dire, j'ai peur que non.
Ouais. Ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage. Celle qu'il a prise conduit, comme les autres sas d'aération. Il n'y en a qu'une seule ouverture d'après ce plan. Nous pouvons très facilement le bloquer. Pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace.
Mais c'est que cette saloperie est gigantesque. Elle est au moins aussi grosse qu'un homme.
Le fils de Ken.
Eh bien, Ash, un scientifique comme toi doit être capable de nous aider. Que devons-nous faire pour le maîtriser?
Eh bien, il s'est remarquablement bien adapté à notre atmosphère, si l'on considère ses besoins nutritionnels, mais on ne connaît pas ses réactions à la température.
La température? Que va-t-il se passer si on la change?
On peut essayer. La plupart des animaux fuient devant le feu, n'est-ce pas?
Ouais. Donc on entend bien Ash à un moment donné qui dit le fils de Cain. On voit qu'il commence vraiment à être... Enfin, il sait des trucs, on sent qu'il est obsédé par quelque chose, quoi. Et puis ouais, l'alien, on voit que quand il est né, il était tout petit, puis là ils disent qu'il est aussi grand qu'un homme, quoi. Donc le truc,
super
il a vraiment...
rapidement en plus.
Ouais. Allez, on va finir avec la distrib des rôles, comment ont été choisis les acteurs, etc. Et puis bah du coup, il y avait uniquement 7 ou 8 rôles hein, à distribuer. Et Ridley Scott souhaite tout d'abord avoir ses côtés hein, de très très bons acteurs avec déjà une carrière établie, étant donné qu'il souhaite se concentrer sur l'aspect visuel du film. Et donc au début, il y a Meryl Streep hein, qui est approchée pour interpréter le rôle de Ripley, parce qu'à l'époque, Sigourney Weaver est une actrice de théâtre montante à Broadway, et elle reçoit le scénario et est finalement dubitative. Bon, et puis elle a en tête une vision cliché de film monstre coloré. Bon, elle n'était pas plus beautée que ça, quoi. Et puis bah finalement, elle est convaincue par son agent de passer une audition hein, à New York. Et en la voyant, Ridley Scott est immédiatement séduit par sa carrure haute et son caractère. Donc voilà, il a évincé Meryl Streep pour prendre Sigourney Weaver. Et puis ensuite, Blood, qu'est-ce qu'on a avec Veronica Cartwright?
Alors, elle a exprimé un intérêt pour le rôle de Ripley, et donc elle a auditionné à Los Angeles. Et donc l'équipe de casting est impressionnée par son intensité et son physique peu conventionnel. Elle est finalement choisie pour jouer Lambert. Mais elle n'a pas tout de suite été mise au courant, elle. Et lorsqu'elle apprend que son agent, elle remporte le rôle, il pense directement à celui de Ripley. Mais en fait, bah non, c'était pas ça du tout. Et Cartwright, donc, elle a finalement eu le rôle de Lambert. Elle a eu, elle a pris ça juste avant de filer le costume, quoi, en gros.
Ouais.
Et donc, elle était un peu agacée de jouer le rôle d'une femme faible, quoi, constamment en pleurs. Mais bon, la production l'a convainc en lui expliquant que Lambert représente le public, notamment sa frayeur. Ouais. Et c'est sûr que si sur le coup, elle pense savoir, ouais, j'ai le rôle de... Bah, puis finalement, c'est pas ça, ça doit...
Ouais, c'est sûr. Mais
ça
bon,
explique un peu certaines scènes. Hein,
ouais, elle était déçue, quoi. Mais bon.
Quand tout de suite, il y a Sigourney Weaver qui revient, puis qu'elle lui saute dessus pour lui mettre une baffe.
Ouais, je pense aussi. Mais je pense que...
Peut-être que...
Il le faisait exprès, hein, je crois. De mémoire que
genre Sigourney Weaver qui ferait ouais, c'est moi qui ai eu le rôle.
Non mais je crois que Ridley Scott il le faisait exprès que de chauffer un peu les deux pour que sur le plateau il y ait plus de tension. Et je crois qu'il devait le faire exprès. Et sinon bah Harry Dean Stanton bah lui à l'époque, il est connu pour être un acteur prolifique au ciné et à la télévision. Et puis, bah, lorsqu'il il a auditionné pour le rôle de Brett, il a dit à Ridley Scott qu'il n'est pas fan de films de science-fiction ou d'horreur. Et Scott, il lui a répondu qu'il ne l'est pas non plus. Bon, et il lui a résumé qu'Alien serait un thriller proche du film des petits nègres, hein, qui est sorti en 74. Et puis, bah, du coup, à la sortie du film, hein, Stanton, il est satisfait du rendu. Et puis, bah, aussi, on a Yaphet Kotto. Lui, bah, il était célèbre pour avoir joué à l'époque dans Racine, hein, c'est une mini, série télévisée hein, qui s'appelle Roots, plutôt en VO sur la traître négrière avec tous les esclaves qui ont été pris d'Afrique pour aller bosser dans les champs de canne aux Antilles ou de coton au sud des États-Unis. Et puis bah lui il est surtout connu pour avoir incarné principalement le méchant hein, dans Vivre et laisser mourir. Et puis bah il s'est vu offrir lui le rôle de Parker en même temps que plusieurs offres lucratives de deux autres productions. Et puis bah bon, son agent lui avait conseillé de refuser Alien parce que son salaire n'était pas spécifié, mais Cotto il a quand même accepté le rôle. Ensuite bah de John Hurt, on a peut-être eu un petit truc là avec lui au niveau de son recrutement, si on peut dire.
John Hurt est d'abord approché pour jouer le rôle de Kane, toutefois il est déjà engagé par un autre projet, ainsi son rôle est proposé à John Finch, qui avait impressionné Ridley Scott par sa performance dans Macbeth de Roman Polanski. Toutefois, au premier jour de tournage, Finch est victime d'une crise de diabète et quitte le plateau. Scott retrouve alors John Hurt qui est désormais disponible et le convainc en une soirée d'accepter le rôle. Hurt commence le tournage le lendemain matin. Après, il y a Ian Holm aussi. Il est aussi surtout connu pour des rôles au théâtre. Il est choisi pour jouer le rôle de l'androïde Ash, qui ne ressemble à aucun rôle qu'il ait joué auparavant. À l'époque du tournage d'Alien, Ian Holm est déjà apparu dans une vingtaine de films.
Ouais, puis pour finir, on a Bolaji Badejo. J'arrive pas bien à le dire à chaque fois.
Hein. On s'excuse de mal prononcer.
Et qu'incarne l'Alien. Et lui, en fait, c'est un jeune étudiant des beaux-arts, hein, africain, très grand. Et en fait, lui, il a été découvert dans un pub près de Shepperton, et parce qu'il faisait 2m08 avec un corps élancé, et selon Ridley Scott, il était l'homme qui pouvait représenter l'alien et donner cette impression que les bras et les jambes sont trop longs pour être réels. Et ça aurait créé l'illusion que c'était un être humain, mais pas vraiment, quoi, parce que c'était un alien, quoi. Et c'est lui qui endosse le costume de la créature. Et il y a aussi le cascadeur Eddie Powell et Roy Scammell qui portait aussi le costume de l'alien à l'occasion de certaines scènes. Et voilà, on a fait le tour des petites anecdotes au niveau de comment ont été choisis les acteurs. On va s'écouter un petit extrait.
Oui, je t'entends.
Quel était l'ordre spécial qu'on t'a donné ?
Tu l'as lu ? Il était très clair.
Mais dis-le-moi.
Ramener sur Terre forme vivante. Priorité numéro 1. Toute autre priorité annulée.
Saloperie, cette compagnie. Qu'est-ce que vous faisiez de nos vies, espèce d'enfoiré ?
Je répète, toute autre priorité doit être annulée.
Comment peut-on le tuer, Ash ? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel ? Comment peut-on faire ?
Vous ne pouvez pas.
Il dit des conneries.
Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire ? Un parfait organisme. Et sa perfection structurale n'a d'égal que son hostilité.
Tu l'admires, n'est-ce pas ?
J'admire sa pureté. Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité.
Et ouais, on a Lambert même qui, à un moment donné, t'as vu, qui lui dit « Tu l'admires, n'est-ce pas ?» C'est vrai que depuis le début, en fait, il est au courant. Et alors là, je fais un spoil, allez, je me lance, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on se demande au final, le Nostromo, il a pris cette route-là parce que le signal, pour moi, il avait été déjà détecté bien avant. et qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait par là et qu'il y avait des vies à récupérer.
C'est pour ça qu'il était à bord, c'est ça que tu veux dire.
Et c'est pour ça que ils ont été réveillés pour aller le chercher, le ramener. Et normalement, le but, c'était qu'il soit ramené sur Terre pour être étudié, etc. Bah, comme on voit après dans les autres aliens. Hein.
Ouais. On comprend. Ah, mais c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'histoire de l'alien, il n'y aurait peut-être même pas eu H dans l'équipage.
Non, non, et puis non, mais même il y a les militaires derrière. Les militaires, ils veulent en faire une arme de guerre. C'est tout, hein. Ni plus ni moins. Ça, je crois que c'est dans l'alien 3 qu'on le voit. Ou 4, la résurrection même. Non, le 3, c'est quand ils sont dans la prison,
après,
c'est dans le 4.
Il y a le Predator qui arrive après, de toute façon.
Et puis, bah, sinon, Blood, il y a pas mal de, on a 3 récompenses pour ce film.
Et oui, donc en 79, BAFTA Awards, meilleur son, meilleure direction artistique. En 79, toujours Oscar, meilleur effet visuel. D'ailleurs, cette nuit, il y a les Oscars. En 79, Saturn Awards, meilleur film de science-fiction, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure réalisation.
Ouais, puis bon, comme je disais au tout début de l'épisode, moi j'ai vu la version Director's Cut de 2003, remasterisée. Et en remasterisée, franchement, ils ont fait du super bon boulot. Alors la version Director's Cut hein, qui est sortie en 2003, bah, elle a que légère différence, elle a quelques petites différences hein, seulement avec la version ciné. Il y a certains plans qui ont été élagués pour améliorer le rythme. Il y a eu 2 scènes qui ont été ajoutées, une dispute entre Lambert et Ripley, et la découverte par Ripley du capitaine Dallas enfermé dans un cocon. Et bah à l'origine Ridley Scott et le monteur Terry Rawlings n'avaient pas souhaité garder cette deuxième scène car ils estimaient qu'elle ralentissait sérieusement le rythme. Et bah du coup le montage du film qui est sorti dans les salles en 79 est celui que Ridley Scott a toujours préféré. Et voilà, qu'est-ce qu'on a aussi dans la version Director's Cut, dans les bonus, bah du coup, on apprend que l'acteur John Hurt, lorsqu'il se penche au-dessus de l'œuf, bah en fait, il sait pas qu'il y a un truc, la créature qui va le sauter au visage, et ça ajoute de l'effet de surprise. Et pareil, Ridley Scott, il a souhaité que les autres acteurs ne soient pas informés de ce qui allait se passer dans la scène où l'alien sort du corps de John Hurt. Comme ça faisait plus d'effets de surprise, tu vois. Et il y a même Lambert hein, l'actrice Veronica Cartwright là, elle a réellement crié d'effroi lorsqu'elle a été aspergée de faux sang lorsque la bestiole elle a éclos du beat du mec là. Donc et puis bah sinon ouais.
Ça met plus dans l'ambiance du coup, s'ils sont pas au courant, ça fait encore plus film d'horreur.
Ouais, quand tu filmes, ouais, c'est vrai que là t'as vraiment le rendu c'est il joue moins la comédie quoi, t'as plus l'effet de surprise. Et puis bah du coup en fait à la base ce film, il a été, il trouve ses inspirations dans plusieurs films. Tu vas nous dire ça, Blood, parce que c'est Dan O'Bannon hein, qui s'est inspiré de plusieurs films. Alors,
exact.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Il déclare à ce sujet qu'il n'a pas volé Alien à quelqu'un, je l'ai volé à tout le monde.
Ouais.
Donc il y a La chose d'un autre monde, c'est un film de 51, inspire l'idée donc d'homme professionnel poursuivi par une créature extraterrestre mortelle à travers un environnement claustrophobe. Planète interdite en 56 donne à O'Bannon donc l'idée d'un navire averti de ne pas atterrir puis que l'équipage soit tué par une mystérieuse créature lorsqu'il brave l'avertissement. La planète des vampires, en 65, contient une scène dans laquelle les héros découvrent un squelette extraterrestre géant qui influence donc O'Bannon pour la découverte de l'équipage du Nostromo, de la créature extraterrestre dans le vaisseau spatial abandonné. O'Bannon a également noté l'influence de John Caird, un film de 53, une histoire courte de Clifford D. Simak, dans laquelle un équipage atterrit sur un astéroïde et découvre une chambre remplie d'œufs. Il cite aussi comme influence Strange Relations de Philip Joseph Farmer en 60, qui fait état de la reproduction des aliens, et plusieurs titres de bandes dessinées d'horreur de la maison d'édition EC Comics, dans lesquels des monstres mangent des personnes. Ouais, c'est cool.
Ouais, donc ouais, bah, de toute façon, c'est ça. Hein. En cinéma, en musique, les artistes, ils s'inspirent toujours d'autres. Hein. Allez, on va s'écouter un dernier extrait. Voilà, donc tout va péter, tout le monde meurt à la fin. Ouais, pour finir, je voulais faire un petit récap de la saga Alien, hein, donc qui commence en 79 avec Alien. On a Aliens, le retour de James Cameron en 86. On a Alien 3 de David Fincher en 92. On a Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet en 97. Prometheus de Ridley Scott en 2012 et Alien Covenant aussi de Ridley Scott en 2017. Voilà, bah et puis sinon moi c'est un film que j'aime bien, je disais tout à l'heure que c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais appuyer sur la touche lecture, j'étais en train de me faire de dessus mais je le regarde quand même, je suis sadomaso.
Mais, je l'ai vu que deux fois, donc je suis pas aussi sadomaso.
Non, mais là, et c'était la première fois que je voyais la version remasterisée. Et franchement, avant, c'était sombre, on voyait pas les détails, on voyait pas ce qui se passait. Mais là, maintenant, en version remasterisée, ils ont vraiment super bien travaillé tout ce qui était la colorimétrie, les contrastes. Donc,
même le son et tout ça, je pense.
Aussi. Mais c'est plus flagrant sur au niveau de l'image, au niveau des contrastes, les scènes dans le sombre, on voit les détails.
Quand il est dans les trucs d'aération là.
Ouais, non,
c'est sombre là.
Ouais, et franchement, ils ont fait du super boulot de restauration quoi. Ouais. Et puis bah sinon l'histoire. Est sympa, comme je disais tout à l'heure, le fait que ça soit en huis clos, c'est vrai que c'est hyper angoissant. Ils y passent un par un, mais bon, ça c'est comme un peu dans tous les films d'horreur, etc.
J'ai même pensé un peu à l'aventure du Poséidon.
Ouais. Même à la
je
fin.
Je peux pas aller ailleurs.
Ouais. Même à la fin, on se dit, ouais, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. Non, et puis
il est balèze quand même, hein, l'alien, de savoir où elle va aller à la fin.
Bah ça marche à l'instinct, ces bestioles, hein. Et puis c'est des dires ouais, puis même la conception de l'alien même, c'est alors les aliens, ils ont une morphologie différente suivant leur hôte, tu vois, parce que là c'était un humain, mais après je crois que c'est dans je sais plus quel alien, il y a un chien, donc il ressemble un peu plus à un chien. Enfin, ils reprennent un peu une part de l'ADN et de la morphologie de leur hôte. Mais sinon, moi, c'est une saloperie, ces bestioles. Ouais, et puis même, après, on voit qu'il y a un truc au niveau de H qui sert certaines choses, parce que, même au début, quand ils s'en vont à pied, avec leur scaphandre, là, sur le vaisseau extraterrestre, et que H, il reste sur le vaisseau pour voir les caméras des casques et écouter ce qu'ils se disent, on voit qu'il est bizarre.
Mais si je dis pas de bêtises, c'est lui qui leur ouvre la porte alors que Ripley dit non, non, faut ouais. qu'il reste deux.
Ah bah oui.
Ouais.
C'était ça. Et puis même après, d'un seul coup, quand Ripley a compris la vérité, et lui, on le voit, il commence à transpirer, mais c'est pas de la transpiration avec
ça une fait bizarre.
De
sueur
transparente, c'est on dirait
c'est
pas du lait, ouais, quoi, c'est... Et on comprend tout de suite, quoi, c'est un androïde.
Donc c'est limite, tu te dis, bah c'est quoi, il a un alien en lui ou quoi?
Et d'un seul coup, il décuple une force surhumaine, etc. Oui, forcément.
Ouais, ouais.
Et non, franchement, ce film-là, il est... Il y a... Tout le monde n'aime pas, hein, parce que justement, c'est oppressant, angoissant. L'alien, on le voit pas beaucoup, en fait.
Non.
Mais comme on se demande... on sait qu'il se cache n'importe où, eh ben, on s'attend à ce que n'importe quand... il nous saute à la tronche à l'écran, quoi. Mais en fait, on le voit pas tellement que ça. Je pense que c'est plus nous qui on se fait des idées, quoi. Et on alimente nos propres phobies, tu vois. Non, mais voilà.
Il ouais, y a qu'à la fin qu'on le voit bien, finalement.
Ouais, il y a qu'à la fin qu'on le voit bien. Ouais.
Et est-ce qu'il meurt à la fin, finalement? Ça se trouve dans l'espace, il s'en fout, lui.
Ah, peut-être, ouais. Et toi, alors, le film?
Bah, c'est donc la deuxième fois que je le voyais, mais j'aime bien, mais je saute pas dessus non plus, quoi. Je préfère Predator, mais ça a rien à voir.
C'est un film d'action.
Ouais.
D'action, bah ouais. Alors, ah, là, on est carrément plus dans le film d'horreur, ouais, carrément, ouais, ouais.
Bon, ouais, puis voilà. Là, comme ils sont sur le vaisseau, forcément, ils peuvent pas se casser ailleurs.
Non. Non, voilà. Et puis avant de se quitter, ben, on va faire un petit clin d'œil à Robert Conrad qui nous a quitté hier. Et puis aussi à Kirk Douglas. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. C'était Bruce au micro.
Et Blood.
Voilà.
Et donc, bon film à tous.
À bientôt, ciao.
Salut.